Bonjour, nous sommes l'association Rêve de rue, à la Mosson, qui a pour objectif changer le regard des gens vis-à-vis des jeunes de quartier et changer la mentalité des jeunes de quartier. Nous sommes avec une personnalité, Madame Ilham Gouli, et deux jeunes adhérents de l'association. Donc, parlez-nous un petit peu de vous, Madame Gouli.
Oui, d'abord, bonjour. Merci à la directrice et merci à toute l'équipe de m'avoir invitée ici à Radio FM. Alors, qui je suis? Je suis une jeune mère, une jeune maman avec son fils, il s'appelle Adam, qui a 10 ans. Et je suis également la présidente de l'association CLIX 34, qui est à la réserve citoyenne, rectorat de Montpellier. Le but de l'association, c'est de promouvoir les valeurs de la République. On a fait quelques rencontres avec des grosses personnalités qui portent justement, où ils ont été décorés aussi par ce type de bravoures qu'ils ont pu mener, et notamment autour de la République. Donc il y a eu Madame Latifa Ibenziaten, j'avais organisé des rencontres avec l'éducation nationale, on a rencontré plus de 1200 élèves. Lassana Batili, c'est le jeune sauveur d'otages après le Charlie Hebdo qui avait mis les juifs dans un je crois, frigo, je crois. Mais en tout cas, il avait fait un acte courageux. Et Monsieur Altrad aussi, Monsieur Moued Altrad, qui lui, à travers son combat et notamment, il est président du club, mais il est également un personnage assez fort par rapport à tout ce qu'il a vécu dans sa vie. Il est aujourd'hui entrepreneur mondial et il tient justement des valeurs autour de l'égalité des chances. Voilà. Donc plus ou moins, ce sont les rencontres qu'on a organisées. J'en ai d'autres, mais entre-temps, je travaille également.
Voilà. Et vous faites quoi comme travail également?
Alors, il y a le avant et le après. Oui. Donc, avant mon livre, pendant 11 années, j'ai travaillé à la ville de Montpellier, où j'étais adjointe administrative, et avant, j'étais animatrice adjointe d'animation. Pendant, je crois, 8 ans dans l'animation, et après, je suis passée adjointe administrative, et là, je travaillais pour une maison pour tous. Donc, je participais d'abord à l'animation pour le quartier, notamment, on est plutôt sur Port-Marianne et la Pompignane, tout ce secteur-là. Et également, notamment, quand on dit adjoint administratif, c'est tout l'aspect administratif, travailler les délibérations pour le conseil municipal qui touche le service où je travaillais, c'est-à-dire la direction de proximité, citoyenneté, les associations, les demandes de salles, les demandes de créneaux, etc. Voilà. Et ça pendant... dans l'ensemble 11 années, je suis montée à la 12e année. D'accord. Alors j'ai été embauchée en 2006 avec un premier contrat en 2007. Fin 2006, 2007, j'ai eu mon premier contrat et j'en ai collectionné. Ouais, j'aurais aimé que ça soit des palmes d'or, mais voilà, c'était pas tout à fait. Voilà. J'ai pris ce qu'on me donnait aussi à l'époque.
Ah, d'accord. Voilà. Et il y a deux jeunes de l'association Rêve de rue.
Bonjour.
Ils souhaiteraient vous poser des questions concernant votre livre, parce qu'on a vu que vous avez fait un livre. Et ils voudraient savoir comment vous avez fait pour faire ce livre. Donc, c'est à vous de poser ces questions.
Je vous en prie. Allez,
présentez-vous.
Voilà, moi je me présente, je m'appelle Marwan, je suis adhérent à l'association Rêve de rue. Voilà, j'habite dans les quartiers de la Payade, au Grand Mail. Voilà, je vais vous poser quelques questions. Vous pouvez nous parler de votre livre Harcèlement?
Alors, harcèlement, alors, on oublie surtout de dire que c'est liberté, égalité, fraternité,
voilà,
harcèlement, voilà. Alors, j'ai retracé rapidement d'avoir ce qui est important pour moi, qui je suis. Et pour savoir qui je suis, je me suis posé la question d'où je viens, finalement, pour savoir où je vais. Et il m'est arrivé bien sûr une mésaventure à la ville de Montpellier, mais aussi ça a été le moment ou jamais de poser les valises et à un moment donné d'écrire. Et pour moi, écrire, c'est comme me libérer, c'est comme une thérapie. Donc voilà, c'est un livre qui retrace d'abord une partie de mon enfance, parce que j'ai grandi quand même dans un milieu qui n'était pas toujours facile. Mon père est tanneur, il travaillait le cuir. Et nous allions le vendre à la Sonacotra, c'est des foyers où il y a des chibani, le samedi, quand j'étais pas à l'école. Donc j'étais avec lui, donc on vendait des vestes, des manteaux, tout ça, pour pas cher, parce que c'est des personnes qui n'avaient pas grand-chose. Donc voilà. Et puis c'est un livre aussi qui retrace tout mon combat à l'école, parce que j'avais quelque chose que j'avais du mal à exprimer devant tout le monde. Et en fait, qui est marqué par un manque de confiance en soi. Pour moi, en tout cas, c'était comme ça que disaient les médecins. Je souffrais de dyslexie. Mmh. Et cette dyslexie m'empêchait de penser qu'un jour, je ferais des études. Et j'étais censurée dans plein d'informations, plein de choses. Et surtout pour moi, je me disais, faire des études littéraires, c'est même pas la peine. Mais en fait, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé cette question de dyslexie avec une orthophoniste. J'étais au CE2 en fait. CE2, non, c'est ça a commencé plutôt le CP, CE1, CE2, CMA, et après ça s'est un peu plus.
Ça s'est amélioré.
Voilà, j'avais vraiment cette lacune. Mais elle se formait face à une émotion. Elle venait qu'avec l'émotivité. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, je vais vous dire, je l'ai encore. Mais j'arrive à la maîtriser.
Voilà.
C'est important que je vous le dise parce que c'était un handicap lourd pour moi. Parce que déjà, mon père, il n'était pas, pas francophone. Donc, voilà. Et puis, même si ma mère arrivait et tout à parler, ce n'était pas pareil. Quoi. Voilà. Donc, mon père est né au Maroc. Il a grandi au Maroc et donc beaucoup plus des valeurs marocaines à la maison, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup la société française, puisque, et comme il le dit, mon père, la France lui a tout donné, en fait. Donc du coup, déjà tout petit, pour nous, c'était important de garder les deux cultures. On avait deux cultures et on savait deux fois plus que les autres, parce qu'on avait deux cultures. Et j'ai jamais ressenti, dans mon enfance, en tous les cas, du racisme. Absolument pas. Je ne l'ai jamais, jamais ressenti. Ça, je tenais vraiment à le dire. Après, c'est plus un combat de traitement d'égalité, ce qui n'est pas tout à fait pareil.
C'est quoi la différence ?
Pour moi, c'est plus promouvoir déjà le statut. Pour moi, c'était travailleur handicapé, puisque j'étais travailleur handicapé après à la mairie. Et je l'ai pas, j'étais reconnue, mais je ne l'ai pas dit. Parce que je voulais qu'on voie mes compétences, que le statut, je suis travailleur handicapé, j'ai le droit de ci, j'ai le droit de ça. Donc déjà, pour commencer, il fallait, pour moi, l'égalité, c'est l'équité. C'est-à-dire que même si je suis travailleur handicapé, je peux réussir un concours de rédacteur comme une personne ordinaire, en fait. Mmh. Il n'était pas marqué, en fait, ça ne se voit pas. Mmh. Et c'est ça que je veux dire, ça ne se voit pas.
C'est pas visuel, quoi.
C'est pas visuel. Alors, voilà, on parlait de mon enfance, il y avait la dyslexie, mais il y avait une autre... J'ai eu un accident à 13 ans, sur le visage, et du coup, j'ai perdu l'usage d'un œil. Du coup, ils ont fait beaucoup d'opérations... Les cours se faisaient souvent dans le noir, dans les hôpitaux. Donc c'était l'hôpital civil de Strasbourg. Et donc j'ai dû apprendre un peu le braille et tout. Donc c'était super compliqué, mais j'ai tenu. Et je le dis quand même dans le livre. Donc jusqu'à que, voilà, j'ai réussi ma troisième, normale. Je suis allée en seconde. J'ai arrêté un petit peu parce que ma mère, elle tenait un commerce. Je le mets d'ailleurs dans, je crois que je le dis. Et d'un an, deux ans, je crois, j'ai repris mes études parce qu'il fallait, pour moi, pour lutter contre le chômage, il n'y a rien à dire, il faut un diplôme au moins. T'en as deux, t'en as encore, c'est encore mieux. Voilà. C'est que les études, c'est une vie aussi, mais il faut le dire, la meilleure arme contre le chômage, on peut dire, depuis la nuit des temps, ça reste quand même, il faut un diplôme, quoi. Et donc, du coup, j'ai intégré l'école de commerce de Strasbourg. Avec un petit concours que j'ai eu, et puis jusqu'en terminale. Et de terminale, après, j'ai suivi des études plutôt orientées vers l'économie sociale et familiale, où j'ai reçu un diplôme. Et après, j'ai travaillé pour la PJJ, où j'ai accompagné des jeunes en milieu ouvert. C'est des jeunes qui sont placés par ordonnance du juge dans un foyer. Et donc là, l'accompagnement, suivi, tout ça, quoi, avec les jeunes. Et voilà, et par la suite, je me suis mariée et J'ai eu une formation de conseillère en insertion professionnelle. Là aussi, c'était pas mal, mais il fallait que... J'ai été sélectionnée, pas au sud de la France, mais en plein centre de la France, Issoudun. Donc ça veut dire qu'avec l'AFPA, il fallait que j'aille là-bas, il fallait que je trouve un internat, il fallait que je gère la maison qui était ailleurs et mes études. Donc là encore, je crois que j'avais 25 ans, 26 ans, j'ai dit, allez, je vais faire CIP, et je l'ai eu aussi. Et je vais vous dire, j'ai un gros problème. Tous ceux qui ont la dyslexie, ils ont un problème de mémoire. Il faut tout marquer, c'est pour ça que je marque. Sinon, c'est super compliqué. Je ne sais pas, peut-être c'est l'émotivité, je ne sais pas, il faut qu'on note tout. Et donc, je l'ai eu. Et après, j'ai travaillé, on m'a prise dans des écoles pour mettre en place des parcours de motricité pour les enfants. Et à Montpellier, beaucoup, avec l'éducation nationale à mi-temps. Et là, la mairie, en 2007, ils sont venus eux-mêmes me proposer un contrat comme animatrice dans les écoles. Et là, je faisais du théâtre. Et j'intégrais surtout, alors j'ai une grande pensée pour les autistes, les enfants autistes, parce que je souhaite les intégrer toujours dans le milieu comme les autres, quoi, comme les autres enfants. Et donc, je m'occupais des classes de CLIS, qui existent encore, sont des classes spécialisées. Et dedans, il y a un ou deux autistes, des fois, hein, ça dépend. Et donc, j'ai beaucoup travaillé le théâtre avec eux et les autres élèves. Et restitution, la pièce de théâtre, en fin d'année, devant 400 personnes. Souvent, si ce n'est pas 400, c'est même plus. À La Rose. Beaucoup à La Rose, Jean Massé, l'école Figuier, centre-ville. Là, j'avais fait un travail sur... ça, c'est les plus grands projets, le travail sur l'expression de soi, mais sur le droit de l'enfant aussi. À travers des photographies de Andy Warhol, où on prenait des photos des parents et de l'enfant, et à partir de là, ils s'exprimaient. Et des enfants qui délivraient des choses. Et par la suite, on a fait une expo avec les parents, tout ça. Et ça, ça dépasse toujours... je tiens quand même à le dire, c'est un dépassement de soi, parce qu'un animateur à la ville de Montpellier... s'occupe de la cantine, des activités, vous avez été dans les écoles, ouais. Et puis il rentre chez lui, quoi. Genre que moi, je fais partie quand même de l'éducation populaire. Derrière, il y a quand même une initiative de l'animateur qui est personnelle, qui est investie. Et c'est ça que je trouve qu'avec la mairie, elles n'ont pas reconnu tout ce travail. Alors bien sûr, le coup, quand on vient, on m'arrête mes contrats. Ben il est encore plus... Quand vous êtes passionné et que vous voyez que vous avez mis...
Je peux comprendre, c'est vrai que ça doit faire mal.
Ben, si tu ne comprends pas, c'est un manque de reconnaissance totale. Ben oui. Et tu deviens qu'un numéro, là-haut. Et je pense que quand je suis arrivée, ce que j'ai changé, c'est ce numéro. C'est là qu'ils savent qui je suis, parce qu'ils me disent le directeur général de service. S'il y a bien quelqu'un qu'on connaît, c'est Mme Goulis. J'ai dit oui, mais à travers des bonnes notes. Il me fait oui, des bonnes notations, mais bon... Voilà. Bon, après, voilà. Après, il y a plusieurs aspects dans ce livre. Moi, quand je parle d'harcèlement, c'est l'harcèlement administratif dans un premier temps. La multiplication des contrats, des reproches pour rien. Alors que vous travaillez comme une dingue et à côté, on ose dire des propos qui ne tiennent pas. Et moi, ça m'avait un peu perturbée. Alors, je me taisais parce que je suis pas de CDI, je suis pas titularisée. C'est le sud de la France. Si je trouve pas un boulot, je vais être dans la galère. Donc, je me tais. J'ai un enfant, voilà. Voilà. Après,
c'est inhumain et c'est injuste aussi.
Ben, quand on arrive à 40 contrats, ouais, surtout que. Alors, ça, c'est ça,
c'est. Il y a pas de reconnaissance, quoi.
Pour moi, ce qui est clair, c'est que la reconnaissance, mais je pense qu'il n'y a pas que moi comme agent, c'était à ce stade-là, parce qu'il y a plusieurs stades, à ce stade-là, il était important de le reconnaître. Mais après, je me rends compte qu'il y a des syndicats qui se battent pour ça, depuis il y a plein de gens qui se battent pour ça. Mais après, si vous voulez, moi, j'ai eu une vie qui a fait que quelque part, ça valait le coup de se battre. Parce qu'après, en 2000... Alors, je suis rentrée en 2006, 2007, et en 2011, on propose ma titularisation parmi les premiers des agents de la ville. C'est-à-dire, il y en avait plus de 400. Et c'est madame Hélène Mandrou, avec le maire actuel, monsieur Philippe Sorel, qui était adjoint au maire, et tout le reste de la majorité, je crois que c'était PS à cette époque, mais bon, c'est qu'un détail. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont proposé de déprécariser les gens. Et je faisais partie de ces gens-là. Or, chapitre, c'est le drame de ma vie. Voilà. Donc c'est page 77, où ça s'arrête pour moi. On est en 2011, j'ai une grosse tragédie dans ma vie personnelle, comme on peut avoir tous un jour dans notre vie. Et je prime ça de 70 absences pour cause maladie. J'avais pas le choix. Et au retour, je leur ai dit, voilà, est-ce que, une fois que j'ai repris mon poste, est-ce que vous allez me titulariser ou pas, ou je rentre chez moi à Strasbourg auprès des miens? Et ils m'avaient dit que oui, on m'a promis que oui, on m'a titularisé, tout ça. Et je dis, mais sur un poste à la hauteur de mes compétences. Parce que, voilà, c'est important. Ensuite, c'était oui, ils m'ont fait des papiers que j'ai signés, etc. Mais ça bloquait à chaque fois, à la DRH. Et je voyais toujours dans les CAP des gens que j'ai formés, des animateurs.
Sans passer.
Que non seulement ils ont été titularisés, mais promus en plus. Promus, ils n'avaient pas coordinateur ou responsable. C'est que quelque part, on se dit, il y a un truc qui ne va pas. Donc là aussi, je me tais. Ça fait quand on arrive en 2014-2015, ça fait soupoler à un moment donné, ça monte là, les injustices commencent un petit peu à me peser. Mais j'ai ma vie personnelle, je dis ouais, je veux me retrouver dans la rue, pas dans la rue, mais je ne vais pas avoir de droits si je pars, etc. Et si je suis... Après, c'est devenu un entêtement entre moi et eux. Il fallait que je sois titularisée en partant. Et si je pars de cette mairie pour aller au département ou je ne sais où, il fallait que je sois titularisée. Pour moi, c'est la base. Si on veut une carrière dans l'administration, il faut être au moins titularisé. C'est la première chose. Après, vous passez des formations, etc. Donc ça, c'était pour tracer. Et après, ça a été l'équipe... Alors, je tenais à remercier Philippe Sorel, parce que lui, en 2014, il a intervenu dans mon dossier, où il m'a donné toute la légitimité. Et vraiment, il a reconnu aussi que j'étais une personne compétente. Mais chez nous, les services, c'est les services. Et le cabinet du maire, c'est le cabinet du maire. C'est deux choses différentes. Voilà. La DRH, donc elle a continué à me faire des contrats. Un jour, je suis rentrée au conseil municipal et j'ai tendu un courrier au maire lui demandant d'intervenir cette fois-ci encore. Pour moi, avec tout ce qui se passait, j'arrivais à un stade en 2014-2015 où il fallait faire quelque chose. Soit on me titularise, soit je m'en vais. Voilà, c'est comme le foot. Vous êtes remplaçant. À un moment donné, oh.
C'est quand je rentre. Donc, voilà. Là, on va mettre une musique pour... on va écouter. On a une question à vous poser. C'est quelle musique est votre musique préférée, quoi?
Ah.
Si on voudrait mettre un son.
Et ben, quelle musique, j'avais pas pensé. Ben, pourquoi pas, je pense. J'ai pas pensé.
Quoi, votre musique préférée? Votre groupe de musique?
Moi, c'est un peu le classique.
La musique classique.
Ouais, non, mais j'ai aussi. J'aime bien Rihanna, mais je sais pas si vous aimez.
C'est pareil.
J'aime bien Rihanna, j'aime bien le hip-hop, j'aime bien. Voilà, faites-moi découvrir une musique, et puis c'est vous les mettre à bord. Voilà. Et donc, j'aimais. Mais en fait, non, j'aimais bien IAM, en fait. C'était un de mes. N'importe lequel, mais IAM. Celui que vous voulez. Ouais. C'est ouvert.
IAM.
I am petit frère.
Petit frère n'a qu'à souhait de devenir grand. C'est pourquoi ils s'obstinent à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor, c'est éclater les tranches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on se tapait des délires sur Blanche-Neige et les sept nains. Maintenant les nains, on giclait Blanche-Neige. Étape éclate, des types claquent dans Mortal Kombat. À 13 ans, il aime déjà l'argent, avide mais ses poches sont parides. Alors on fait le caïd dans des booms qui sont désormais des soirées. Plus de sirop dessert, petit frère de tes pierres. Je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ses cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère. Rêve de bagnole, de fringue et de thune, de réputation de dur. Pour tout ça, il volerait la lune. Il collectionne les méfaits sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Peu lui importe de quoi demain sera fait, de donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête, le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames, dames de l'Afrique. Plus de cartable, il ne saurait pas quoi en faire. Il ne joue plus aux billes, il veut jouer du revolver. Petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier, pensez au butin qu'il va amasser.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère.
Les temps ont changé. Demain tout ira mieux, tu verras.
Les journalistes font des modes, la violence à l'école existait déjà. De mon temps, les rackets, les bastons, les dégâts, les coups de patte dans les pare-brises, des tirs des instituteurs, embrouille à coups de cutter. Mais en parler au journal tous les soirs, ça devient banal. Ça s'imprime dans la rétine comme situation normale. Et si petit frère veut faire parler de lui, il réitère ce qu'il a vu avant 8h30. Merde, en 80 c'était des états de fait, mais là ces journalistes ont fait des états. Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant, juste surexposé à la pub aux actes violents. Pour des grandes gosses et de meilleurs citrons, la cible numéro 1, le terrain des produits de consommation. Et pour être sûr qu'ils s'en procurent, petit frère s'assure, flingue à la ceinture.
On sait ce que tu es quand on voit ce que tu possèdes. Petit frère le sait et garde ce fait en tête. L'argent lui ouvrirait les portes sur un ciel azur aussi facilement que ses tournevis ouvrent celles des voitures. Le grand standing et tout ce dont il a envie, ça passe mieux quand tu portes un Giorgio Armani. Soucieux du regard des gens, malgré son jeune âge, petit frère fume pour paraître plus grand. Il voudrait prendre l'autoroute de la fortune et ne se rend pas compte qu'il pourrait y laisser des plumes. Il vient à peine de sortir de son œuf et déjà petit frère veut être plus gros que le bœuf.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère.
Nous sommes toujours avec FM Plus 91, avec Rêve de Rue et Madame Ilham Gouli. Et avec son livre Harcèlement, Liberté, Égalité et Fraternité. Donc Ilham, je voulais savoir combien de temps vous avez pris pour faire ce livre.
J'ai mis 8 mois.
8 mois.
8 mois, je l'ai écrit le soir des fois et puis pas toujours à Montpellier. Voilà, c'est quand je voyageais.
Ah, t'as fait combien de voyages dans votre vie?
Ah, j'en ai pas fait non plus des masses, mais ça va, j'en ai fait 3-4, mais qui m'ont marqué quand même. Ah, voilà.
C'est où ça vous a marqué le plus
Bah, la Tunisie, le Maghreb, ça m'a beaucoup... j'ai eu un retour aux sources. du côté de mon père aussi au Maroc. Voilà,
ça,
au Maroc. À Settat, c'est à 30 km de Casablanca. Et puis aussi à Séville, du côté de... Ben, disons que dans la famille, on a beaucoup de gens qui viennent de Séville. Donc il y a une partie qui est d'Espagne aussi. Voilà.
Votre film, il parle... Non, votre livre, il parle de quoi? De toute votre enfance
Il parle de, en fait, tout le mécanisme du harcèlement qu'on peut subir dans une administration, à savoir qu'une administration, c'est très compliqué, un service public de désigner le harcèlement, qui le fait. Parce que justement, il y a du népotisme, c'est-à-dire des copains, copines, entre cadres, élus et des agents, malgré eux. Malgré eux, c'est comme ça. Et c'est des actions qui peuvent être répétées. C'est quelque chose qui est c'est insidieux. C'est insidieux. C'est des actes d'intimidation. On peut vous intimider, du chantage. Et voilà, il suffit qu'ils soient tous copains entre eux. Et puis ça se. Et c'est ce qui s'est passé la dernière année avec. Avec la mairie, malheureusement pour moi. Alors, soit je n'ai pas su exprimer mes idées comme il fallait, j'en sais rien. Mais moi, personnellement, de toute façon, tous les deux mois, le maire était au courant, par mon médecin, de toutes les demandes qu'il avait faites, restrictions médicales, évictions à l'accueil. Alors, le harcèlement, ça peut s'exprimer aussi par... alors, pour moi, ça a été placardisation. On vous placardise sur un poste qui ne convient pas. Alors, pour ma part, en plus, il y avait des restrictions médicales. Je ne pouvais pas... J'ai des nodules aux cordes vocales et j'ai un glaucome. Donc du coup, mon poste était plus ou moins aménagé. Ils ont tout changé sans aménager le nouveau poste. Il y a ça, ostracisation, c'est-à-dire la pression qui est dite, comment c'est dit les choses, tout ça. Et après, soit vous soldez tout ça par des arrêts maladie et vous perdez votre place, soit par un licenciement, ce qui a été le cas pour moi, ça a été le licenciement au bout de 11 ans. Voilà, c'est une CAP, une commission administrative paritaire qui juge. Et ce qui est un peu choquant, c'est que les gens qui m'ont jugé, ce sont les mêmes cadres que j'ai pointés tout au long des 7 derniers mois. Donc pour moi, on ne peut pas être juge et partie. C'était le message que je voulais dire. D'ailleurs au maire, hein, je ne sais pas s'il est au courant de tout ça, mais ce que je sais, on ne peut pas être jugé parti. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce maire en 2014, 2015, 2016, parce que quand il est venu, il a bien fouetté les cadres. Il les a bien fouettés, parce qu'il faisait tout... Excusez-moi. Certains, voilà, il a mis un peu d'ordre. Et les syndicats, comme ils étaient cul et chemise avec lui, ils étaient ensemble, ça a dû... il a remis les choses dans l'ordre. Après, tu aimes ou tu n'aimes pas, moi, personnellement, mon syndicat, à moi... C'était Philippe Sorel. Parce que c'est ça, c'était plus les syndicats, il y en avait... Comme chacun instrumentalisait sur n'importe quel dossier pour venir côtoyer le maire, donc je me dis, bah, vaut mieux aller directement à la source, c'est plus simple. Donc du coup, moi, je pense très sincèrement que les gens, j'espère qu'en lisant mon livre, déjà dans un premier temps, les faits sont là, mais comment s'en sortir ? Comment s'en sortir ? Jamais rester seul, parler avec des gens. Moi, je me suis intégrée au théâtre, je me suis intégrée à l'opéra, l'orchestre national de Montpellier, qui m'ont sélectionné l'année dernière, et cette année à nouveau. Ça m'a aidée. Il ne faut surtout pas, surtout pas rester seul. Ensuite, les voyages, je n'en ai pas fait des masses, mais j'ai obtenu un poste de responsable, même pas, c'était conseillère mobilité, et maintenant responsable de la plateforme mobilité Cité Maritime. Voilà ce que je suis... c'est le nouveau poste avec le département et une association. Et donc là, je vais à Sète, à Metz, à Marseillan. C'est vrai que ça me fait beaucoup d'allers-retours avec le train, le car, mais les voyages, c'est la thérapie pour moi. Ça m'a beaucoup aidé. Et le fait de travailler, de garder mes distances aussi, parce qu'il ne faut pas revenir vers eux et rabâcher et tout ça. C'est, psychologiquement, ça peut être très dur. Et je tiens quand même à dire, oui, je le reconnais, j'ai aussi fait une thérapie avec moi-même. Ça a été ce livre, ça a été aussi des séances avec mon psychologue, parce qu'il fallait... Voilà, je veux pas excusez-moi, emmerder tous mes copines pour dire, voilà, j'ai eu ça, ça va, il y a eu... voilà, il ne faut pas qu'on revienne et on ressasse, mais reconnaître le statut de victime. Et aujourd'hui, dans notre société, être victime, c'est être inférieur, on dirait. Moi, j'ai dit non, Il ne faut pas que ce soit une banalité, il faut continuer à se battre. J'ai fait appel au défenseur des droits, Jacques Toubon, qui a interpellé M. Philippe Sorel, qui a demandé des explications. Je pense que là, il a dû comprendre réellement ce qui s'est vraiment passé avec moi, c'est-à-dire mes problèmes de santé et mes notations. Il a pris note de tout ça. Voilà, il y a plein de choses qui font que...
Oui. Et je voulais savoir quel conseil vous donnerez à ces jeunes.
Déjà,
à l'avenir, vu votre expérience de vie et votre cheminement, quel conseil vous donnerez à ces deux jeunes?
Alors, je le mets dans une page. Il faut s'accrocher. Ça, je vous le dis. N'importe qui vous le dira, il faut s'accrocher.
Il faut se battre.
Il faut se battre. Parce que même quand on est le plus fort, ben, ça n'exclut pas qu'on peut perdre à un moment donné. Mmh. Rester effectivement toujours pacifiste. Essayer de trouver toujours des...
C'est-à-dire pacifiste.
Rester ben, calme, posé. Mmh. Mais être posé, ça ne vient pas comme ça. Mais trouver des... On ne peut pas aller comme ça au combat. Allez, on y va. Non, ce n'est pas ça. Combat, c'est quand vous êtes dans un terrain de boxe. Là, voilà, le combat, il est devant vous. Mmh. Mais je pense que des fois, la diplomatie, c'est aussi la meilleure manière aussi de résoudre des problèmes quand il y en a, quand il y a un conflit. Il faut tout faire pour éviter les conflits, de toute façon, aujourd'hui. Et le conseil, c'est les études. Je continuerai à dire que les études, c'est peut-être une vie, mais c'est très important. Et rester les valeurs de soi, en fait. Toujours les valeurs de soi, le bien, le calme, montrer le bon chemin si vous avez... voilà. Et je pense, à moi, à votre âge, c'était la fréquentation. Voilà, c'est important. Si, ça, c'est choisir... je suis désolée, mais... moi, j'avais des parents quand même sévères et je devais choisir mes amis à un moment donné. Je peux parler avec tout le monde dans la cour, mais voilà, vu que j'étais pas non plus la plus grande des fortiches en cour, mais bon, je choisissais quand même quelques amis qui m'élevaient vers le haut. Voilà, ça c'est important, la fréquentation, c'est vrai que c'est quelque chose de... Et lire, je vous assure. C'est bien les tablettes, c'est bien le numérique, mais franchement, lire, je vous assure, ça a été un voyage pour moi. Vous disiez, quels sont les voyages que j'ai faits? C'est la lecture.
D'accord. Eh ben, je vous remercie, Madame Goudy, et je vous remercie aussi les deux jeunes pour tout ce que vous avez pu apporter.
Merci à vous, merci à
merci, madame.
Vous deux, merci à...
Et on se dit à bientôt avec FM+, Montpellier.
Merci beaucoup.